France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, l'énergie noire serait-elle en train de montrer patte blanche ? Une récente étude menée par plus de 900 scientifiques pourrait changer notre description de l'histoire de l'univers. Rien que ça. Utilisant les données recueillies par le télescope Mayall, installé en Arizona, ils sont parvenus à positionner précisément dans le ciel des millions de galaxies au sein de l'univers observable. Ces indications leur ont permis ensuite de retracer ce que fut l'évolution de l'accélération de l'expansion de l'univers durant les 11 derniers milliards d'années. Si les résultats qu'ils viennent d'annoncer se confirmaient, alors cela voudrait dire que l'accélération de l'expansion de l'univers n'a pas été constante au fil du temps, contrairement à ce qui avait pu être imaginé ces dernières années. Mais soyez sans crainte, je suis bien conscient que ce que je viens de dire là n'est pas très lumineux, et donc qu'une clarification s'impose. La bonne nouvelle, c'est que je suis en compagnie de deux physiciens qui vont justement nous dire ce que l'on sait, et aussi ce que l'on sait ne pas savoir, à propos de l'épineuse question qui concerne la nature du moteur qui accélère l'expansion de l'univers et qu'on a baptisé l'énergie noire. Bonjour Christophe Yesch.
Bonjour.
Vous êtes physicien à l'Institut de Recherche Fondamentale sur les Lois de l'Univers, à Saclay. Bonjour Philippe Brax.
Bonjour.
Vous êtes physicien théoricien à l'Institut de Physique Théorique de Saclay. Et je vais commencer par m'adresser à Christophe Yesch, puisque vous êtes membre de cette collaboration, de cette expérience qui vient d'annoncer des résultats qui ont surpris la communauté. Quelle est cette expérience ? En quoi consiste-t-elle ?
Cette expérience s'appelle DESI. Ce qui est important, c'est que dans DESI, il y a Dark Energy, pour le D et le I, ce qui signifie que l'on étudie l'énergie noire. C'est la fonction première de cette expérience. En fait, c'est une expérience de cosmologie. Donc notre objectif, c'est d'étudier des millions de galaxies et de faire une carte à trois dimensions de ces galaxies, et aussi d'objets plus lointains qui sont les quasars. Donc, une fois qu'on a cette carte, on l'obtient en gros par d'abord la position sur la voûte céleste, c'est les coordonnées, on peut dire X et Y, et la troisième coordonnée, la coordonnée Z, on va l'obtenir en étudiant les spectres de ces objets.
Ce que vous appelez Z, c'est l'éloignement.
Exactement, c'est le décalage vers le rouge. Donc, une fois qu'on a ces trois coordonnées, on peut considérer toutes les paires de galaxies et on va calculer la distance entre ces galaxies. Et la surprise, c'est qu'en fait, les galaxies ne sont pas distribuées de façon aléatoire ou homogène dans l'univers. Elles ont une préférence dans la distance entre elles. Cette préférence, c'est une distance de l'ordre de 150 mégaparsecs, c'est-à-dire 500 millions d'années-lumière, qu'on va essayer de retrouver à travers l'évolution de l'univers, pour différents âges de l'univers, pour différents décalages vers le rouge, puisque le décalage vers le rouge traduit aussi l'âge de l'univers. Donc on construit toutes les distances possibles entre toutes les paires de galaxies et on retrouve cette mesure qui vaut 150 mégaparsecs, 500 millions d'années-lumière, et on va le faire pour des tranches de redshift ou d'âge de l'univers.
Alors, qu'est-ce que vous appelez le redshift, Christophe Yesch ?
Alors, le redshift, c'est le décalage vers le rouge. Je suis désolé, j'ai employé le terme.
Ça, c'est une traduction.
Voilà. Donc, en fait, on observe le spectre d'une galaxie au repos. Donc, on voit
des longueurs d'onde.
Des longueurs d'onde. On voit des pics, des absorptions, ce sont des trous. Et lorsque l'objet va s'échapper par rapport à nous, par une sorte d'effet Doppler, la lumière va être décalée vers le rouge, et donc la longueur d'onde va être aussi décalée. On va donc mesurer ce décalage sur la longueur d'onde qui va nous permettre de déterminer la vitesse à laquelle l'objet s'échappe par rapport à nous. Et donc, on va en déduire par un effet Doppler, en quelque sorte, le décalage.
Donc, si je comprends bien Christophe Yesch, avec cette observation, vous avez observé donc des millions de galaxies, vous savez où elles sont, et exactement, vous savez à quelle vitesse elles s'éloignent de nous.
Donc, on traduit cette vitesse en position, troisième coordonnée. Donc, on a les trois coordonnées pour chaque objet. on calcule les distances, on a les 150 mégaparsecs, on voit un petit excès. C'est-à-dire, lorsqu'on fait toutes ces paires, on voit que la probabilité est un peu plus grande de trouver des galaxies qui sont à 150 mégaparsecs les unes des autres. Et puis, on va utiliser ça, en quelque sorte, comme maître étalon, comme règle. Il faut voir que l'univers est en expansion. Qu'est-ce que ça signifie que l'univers est en expansion? C'est difficile à comprendre, mais supposons qu'on travaille sur un univers qui a seulement deux dimensions, qu'on se déplace sur la surface d'un ballon de baudruche. On a réduit notre univers à trois dimensions, à deux dimensions. On se déplace sur ce ballon et on gonfle ce ballon. Progressivement, on voit qu'on est en train, tous les points de ce ballon sont en train de s'éloigner les uns des autres.
Sans que les points bougent.
Sans que les points bougent. Donc ça, c'est l'expansion. Et maintenant,
donc ça veut dire que c'est la distance entre les points qui augmente,
exactement.
Sans que les points se déplacent.
Imaginons qu'on ait une règle, on ait tracé un petit trait sur ce ballon qui vaut 150 mégaparsecs, on va s'apercevoir avec l'expansion de l'univers que ce trait grandit, et ce qui nous intéresse, c'est de voir s'il grandit à la vitesse que l'on attendait, prédite par la théorie ou pas. Voilà. Donc on va étudier, ce qu'on étudie au fond, c'est l'expansion de l'univers, l'accélération de l'expansion de l'univers, qui a été trouvée finalement une vingtaine d'années. Et maintenant, ce qu'on trouve, nous, c'est qu'il y a une déviation par rapport à cette accélération de l'expansion de l'univers. C'est notre découverte. En
fait. Philippe Brax, vous êtes au courant de ces résultats qui ont été annoncés il y a quelques jours. Votre réaction de physicien théoricien?
Alors la première réaction de physicien théoricien, c'est... Je suis toujours très impressionné par ce que mes collègues expérimentateurs arrivent d'obtenir. Parce que nous, on a des modèles qui sont des modèles assez compliqués, qui décrivent de façon assez peu détaillée finalement le comportement de l'univers. Et nos collègues expérimentateurs arrivent à obtenir des résultats qui sont fantastiques avec des mesures très très précises. Et ça, c'est toujours une source d'étonnement. Après, l'énergie noire, c'est quelque chose qui est avec nous depuis 1998. Donc, quand on est théoricien, c'est quelque chose qui nous accompagne depuis longtemps. Et même si on remonte historiquement, depuis Einstein en 1917, avec ce qu'on appelle la constante cosmologique, le concept d'énergie du vide ou de constante d'énergie noire est très très ancien.
Mais peut-être qu'il faut faire justement un peu de rappel historique, parce que en 1915, Einstein a en effet publié une nouvelle théorie de la gravitation qui s'appelle la relativité générale, et on lui fait comprendre assez rapidement que il n'existe pas de solution stationnaire de ces équations, ce qui choquait son intuition de physicien. Et en 1917, il a introduit une constante qu'on a baptisée la constante cosmologique, qui agit comme une sorte d'écarteur d'espace. Et si on lui donne la bonne valeur, elle vient compenser l'effet contractant de la gravitation.
Tout à fait. C'est ce qu'a proposé Einstein en 1917 dans son modèle statique et sphérique de l'univers, qui a été une révolution parce que c'était la première fois qu'on avait un modèle de l'univers scientifique qui pouvait calculer, qui donnait par exemple la taille maximale de l'univers. Ce qui a conduit dès les années 20 aux pères fondateurs de la théorie quantique comme Pauli, Jordan, Lenz, à essayer de calculer cette constante cosmologique que Einstein avait introduite pour essayer de calculer la taille de l'univers dans l'univers d'Einstein. Et avec les rudiments de théorie quantique, les balbutiements qui commençaient à arriver, ils ont fait un premier calcul et ils ont trouvé que le rayon de l'univers était 31 km. Et c'est la première fois qu'on arrivait au problème qui s'appelle le problème de la constante cosmologique, qui est que théoriquement, on n'a pas vraiment d'idée de la façon dont on pourrait calculer cette constante et donc la relier avec les expériences que Christophe mène.
Mais Philippe Brax, j'ai une question à vous poser, peut-être indélicate, mais est-ce qu'on a le droit de transposer dans un cadre théorique un concept qui vient d'une autre théorie qui n'est pas compatible avec elle? Ce que je veux dire, c'est que on entend dire partout que la physique quantique et la relativité générale n'utilise pas le même espace-temps, par exemple. Et donc, est-ce qu'on a le droit de parler d'énergie du vide, concept quantique, dans le cadre de la relativité générale?
Alors, c'est un des problèmes, mais on se le permet. Et une des difficultés, c'est justement que la constante cosmologique dépend intrinsèquement de ce qui se passe à très très courte distance. Et donc, le fait qu'on trouve que le calcul théorique ne donne pas la bonne valeur, ça reflète notre incapacité à comprendre jusqu'à l'heure actuelle la physique à très très court distance.
Mais qu'est-ce qui nous empêche de dire que la constante est simplement une constante? Qu'elle ne dérive pas d'un calcul théorique, mais est une donnée de l'expérience. Ce qui est d'ailleurs ce que disait Einstein lui-même, je me permets de le citer. En 1917, il écrit ceci. En tous les cas, une chose est claire. La théorie de la relativité générale permet d'ajouter le terme lambda, c'est la constante cosmologique, dans les équations. Un jour, notre connaissance réelle de la composition du ciel des étoiles fixes, les mouvements apparents des étoiles fixes et la position des lignes spectrales en fonction de la distance sera probablement suffisante pour pouvoir décider empiriquement la question de savoir si, oui ou non, la constante cosmologique est égale à zéro. Et il conclut ce texte, qui est une lettre à Dociter, la conviction est un bon motif, mais un mauvais juge. Qu'est-ce que vous dites à Einstein ? L'un si et l'autre, Christophe Jesch.
Si je peux me permettre, en fait, je pense que cette constante cosmologique, il l'a introduite pour de mauvaises raisons. Il voulait un univers statique, et on a su rapidement, dès 1930, que l'univers était en expansion. Et elle a réapparu, en fait, avec les expériences sur les supernovae, à la fin des années, en 98-99, lorsqu'on a été obligé de réintroduire un terme qui était répulsif vis-à-vis de l'accélération, il était très commode d'utiliser la constante cosmologique. C'était un principe de commodité.
Mais Christophe, je vais un peu vite, parce qu'en fait, Einstein, en 1930, il abandonne la constante cosmologique. Il écrit d'ailleurs, je me permets de le citer à nouveau, en 47, il écrit une lettre à l'abbé Lemaître, qui avait prédit l'expansion de l'univers. Il lui dit ceci, l'introduction de cette constante implique une renonciation considérable à la simplification logique de la théorie. Depuis que j'ai introduit ce terme, j'ai toujours eu mauvaise conscience. Je ne peux pas croire qu'une chose si laide puisse être réalisée dans la nature. Lettre à laquelle l'abbé Lemaître répond, l'histoire de la science fournit beaucoup de cas de découvertes qui ont été faites pour des raisons qui ne sont plus considérées comme satisfaisantes. Il se peut que la découverte de la constante cosmologique soit un tel cas. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est qu'elle a été introduite pour de mauvaises raisons, mais ça ne suffit pas pour la disqualifier.
Il avait un peu raison. Donc elle a été réintroduite pour expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers, qu'on a découverte avec les supernovae, à la fin des années 90.
Qui avait eu le prix Nobel à trois physiciens.
Oui, Ries, Perlmutter, Schmidt. Et puis, finalement, peut-être qu'on est en train de s'apercevoir qu'on n'en a plus besoin. Mais ce qu'il faut, moi je le ressens en tant qu'expérimenteur, il faut le concevoir comme quelque chose très ad hoc. C'est un principe de commodité, finalement, la constante cosmologique. C'était le modèle le plus simple. On avait une certaine image de la connaissance, un certain niveau de connaissance au moment de la découverte de l'accélération de l'expansion de l'univers. C'était très commode d'utiliser la constante cosmologique. Maintenant, peut-être, on est en train de se dire, il faut quelque chose de plus compliqué. Et là, c'est très intéressant parce que il faut rebondir, il faut aller voir nos amis Philippe, là, les théoriciens, pour voir ce qu'ils vont nous donner comme nouvelle théorie, nous prédire.
Avant de parler.
Philippe Braque, vous êtes interpellé.
Avant de parler de ça, il faut quand même rappeler que on peut parler de la constante cosmologique, mais il y a aussi l'énergie du vide, comme Einstein le précisait. Et l'énergie du vide, elle est là. Et donc, de toute façon, en tant que théoricien, on voudrait arriver à la calculer. À ça, on pourrait rajouter une autre quantité qui pourrait être la constante cosmologique qui apparaîtrait uniquement à la main dans les équations d'Einstein au départ. Mais le fait que le vide fluctue et donne une énergie, c'est un fait qui est tangible. On le sait depuis les expériences qui ont confirmé l'existence de l'attraction de Casimir entre deux plaques de fer qui s'attirent uniquement parce qu'il y a du vide entre les plaques et qu'il y a le vide à l'extérieur, et que la différence entre les deux fait que les deux plaques s'attirent.
Mais est-ce que le vide quantique gravite ?
Il y a des expériences qui essayent de le tester.
Donc on ne le sait pas ?
On n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Mais c'est des expériences qui ont lieu en Italie en ce moment. J'étais aux rencontres de Morion et des expérimentateurs, collègues en Italie, proposent des expériences justement pour voir si le vide gravite. En tant que théoricien, j'ai presque pas de doute. Mais expérimentalement, il faut le vérifier.
Parce qu'on a l'impression que la constante cosmologique, c'est un peu l'intermittente du spectacle, pour ne pas dire l'arlésienne.
Exactement.
Elle apparaît, elle disparaît, elle revient sous une autre forme. On croit que c'est la solution qui explique l'accélération de l'expansion. Puis vos expériences Christophe Hiesch montre que c'est la met en défaut. Est-ce que ça l'annule complètement? Est-ce que ça modifie son statut? Est-ce qu'il faut complètement l'abandonner? Est-ce qu'elle pourrait revenir?
De toute façon, quand vous avez une équation, les équations d'Einstein, le plus simple, c'est de mettre une constante pour expliquer quelque chose. C'est la solution la plus simple. Ensuite, on peut se dire que cette constante, ce qui est intéressant, c'est la valeur. Et la valeur, elle est quand même un peu complètement ad hoc. Donc, à un certain moment, on sera obligé d'introduire quelque chose de plus complexe pour expliquer pourquoi la constante cosmologique a juste cette valeur. On peut l'accepter un peu comme la valeur de G, mais certainement, ça serait plus satisfaisant si on arrivait à avoir une théorie plus fondamentale qui est capable de prédire l'ordre grandeur de cette énergie du vide.
Avant qu'on discute de ces possibilités, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les méthodes que vous utilisez pour faire ces mesures? Il s'agit d'un télescope situé en Arizona, 2500-2600 mètres d'altitude, je crois.
Exactement.
Quelle longueur d'onde, quel diamètre?
C'est un petit télescope. En fait, on est un peu vertueux, je dirais, parce que c'est un télescope de 4 mètres. 4 mètres, pour les astrophysiciens, c'est has-been.
C'est petit bras.
C'est très petit. Maintenant, ils travaillent sur des 8 mètres, VLT ou les Keck, des 10 mètres. Donc, on est vertueux dans la mesure où on a récupéré un vieux télescope des années 70, mais on l'a converti, on a mis au plan focal des positionneurs, où on met chaque positionneur à une petite fibre. Il y a 5000 positionneurs. Chaque petite fibre vont être associées à un objet sur la voûte céleste. Et on va collecter la lumière. Cette lumière va arriver sur un spectrographe. On va mesurer un spectre. Et comme je l'ai dit précédemment, on va pouvoir mesurer le décalage vers le rouge. Voilà. On a rénové un télescope qui certainement aurait progressivement disparu. Donc c'est vertueux, je trouve. Ensuite, il y a un autre point que je voudrais préciser. Pour ne pas être influencé par ce qu'on va trouver, on fait des analyses en aveugle maintenant. Et c'est très important. Par exemple, bien que dans notre nom DESY contienne Dark Energy, pour nous, ça a été une vraie surprise de trouver que l'énergie noire variait en fonction du temps. Et ça, je pense que si on n'avait pas fait une analyse en aveugle, par exemple, on aurait eu tendance à tordre les données pour essayer de retrouver notre a priori.
Mais comment ça se passe? Comment est-ce que vous l'avez découvert? Ça vient tout d'un coup, là? Vous avez réalisé qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou est-ce que c'est progressif?
On avait une première intuition il y a un an. On avait publié les résultats avec un tiers de la statistique et on avait déjà une indication que certainement, on pouvait considérer que l'énergie noire n'était pas constante en fonction du temps. Maintenant, on a plus que doublé la statistique et l'indication est beaucoup plus forte. Ça, de ma vie de scientifique, c'est plutôt une bonne indication. Parce qu'on a une fluctuation statistique,
elle
disparaît progressivement, elle reste, parce qu'on ne peut pas supprimer le tiers d'observation, mais elle disparaît progressivement. Donc ça, c'est une idée que peut-être ce n'est pas juste une fluctuation statistique. Ensuite, donc, on a une analyse en aveugle, comme je l'ai dit. Donc, on a ces catalogues avec les trois positions X, Y, Z. On essaie de construire toutes les distances entre ces paires de galaxies. Et on regarde la position de cet excès à 150 mégaparsecs. Et on regarde si les 150 mégaparsecs veulent exactement 149, 148. Ce qui nous renseigne sur ce qu'il y a entre nous et l'endroit où on regarde l'univers, donc on est dominé par l'énergie noire, donc ça nous donne une information sur l'énergie noire, et ça nous donne aussi une information sur l'expansion de l'univers au cours de l'histoire de l'univers.
Mais voilà. Christophe, je vous parlais de statistiques. En l'occurrence, c'est quelques millions de galaxies?
Oui, là, pour l'instant, on a utilisé de l'ordre 14 millions de galaxies quasars. À terme, on va avoir...
Et sans vouloir être désobligeant, c'est pas beaucoup?
Pas beaucoup.
Pas beaucoup par rapport aux milliards.
Ah, bien sûr, mais on les a... Ah oui, c'est une très bonne question en fait. On n'observe pas tout. On choisit avant les objets qu'on va regarder. Et on est malin. C'est-à-dire qu'on veut couvrir tout l'âge de l'univers. Donc, quand on va regarder à des redshifts petits, c'est-à-dire un univers qui est proche de nous, on va regarder des grosses galaxies. Un peu plus loin, on va regarder des galaxies qui sont des galaxies rouges, relativement grosses. Un peu plus loin, on va regarder des galaxies qui sont en train de former des étoiles. Et quand on veut aller très très loin, on n'est plus capable d'observer les galaxies, donc on utilise des quasars. Les quasars sont de gros trous noirs supermassiques à l'intérieur de galaxies et qui émettent beaucoup de lumière parce qu'il y a un disque d'accrétion. Donc on fait une sorte de présélection. On ne veut pas observer tous les objets.
Vous ne voulez pas perdre de temps. Par contre, vous voulez des indicateurs à toutes les distances.
Exactement.
Parce que voir loin, c'est regarder le passé, finalement.
Alors, exactement. Quand je parle de quasars très lointains, ils ont émis leur lumière il y a 11 milliards d'années. L'âge de l'univers, c'est 14 milliards d'années. Quand je parle de galaxies en train de former des étoiles, elles ont émis la lumière il y a 7 milliards d'années, c'est-à-dire à mi-chemin par rapport à l'âge de l'univers. Et lorsque je parle de galaxies, grosses galaxies très proches de nous, elles ont émis cette lumière il y a 1 milliard d'années.
Et vos résultats montrent qu'il y a eu effectivement une accélération de l'expansion tout au long de l'histoire, mais elle a été variable.
Oui, exactement.
Est-ce que l'accélération a diminué ?
Alors, d'abord, ce que je veux préciser, ce n'est pas seulement nous. On est obligé de combiner avec d'autres informations. On combine avec des informations qui viennent du fond du flux cosmologique, qui viennent aussi d'observations avec des supernovae. Et lorsqu'on combine toutes ces observations, dans le cas le plus favorable, on observe une variation de la densité d'énergie noire en fonction du temps qui a très peu de chances d'être due à une fluctuation statistique. La probabilité que ce soit due à une fluctuation statistique est moins de une chance sur 5000. Maintenant, pour répondre plus précisément à votre question, par rapport à la vision classique avec une constante cosmologique, l'accélération de l'expansion de l'univers est conservée. Mais, il y a 7 milliards d'années, elle va accélérer un peu plus vite que nous prédirait avec la constante cosmologique. Et en contrepartie, si on regarde il y a 2 milliards d'années, cette accélération est un peu plus faible que si on avait un modèle lié à la constante cosmologique. Donc c'est comme ça qu'on dérive une information sur la constante cosmologique. En fait, ce qu'on regarde, nous, ce qu'on mesure, c'est l'expansion de l'univers, et si elle va plus vite, cette accélération, ou moins vite.
Alors j'ai une question personnelle qui d'ailleurs va être posée à l'un et à l'autre, c'est quand est-ce que vous avez commencé ce travail ? Et au moment où vous l'avez commencé, quel était votre pari sur la nature de l'énergie noire ? On a découvert l'accélération de l'expansion en 1998, je ne sais pas si votre expérience a commencé très vite après cette information, mais quel était votre candidat naturel pour expliquer l'origine de l'accélération de l'expansion ?
Alors, pour expliquer déjà, parce que c'est intéressant, ces expériences, on ne les fait pas en quelques mois. On a commencé à concevoir cette expérience en 2009-2010, et je me souviens, j'avais participé aux premières réunions à Berkeley, donc ça prend du temps. On a commencé à observer en 2021, et on délivre les premiers résultats maintenant. Donc vous voyez, ça, ces expériences au long cours, ça prend du temps. Alors, mon avis sur la constante cosmologique, moi je vais dire, je suis agnostique.
C'est que... Facile.
Il y a longtemps, je crois au modèle standard, je suis physicien des particules à l'origine, je crois au modèle standard, donc pour moi, il y a un modèle standard pour la cosmologie.
Le modèle standard de la cosmologie, pas celui de la physique des particules.
Je crois au modèle standard de la physique des particules, donc naturellement, pour moi, on devait avoir un modèle standard aussi en cosmologie. Donc on mettait à la main cette constante cosmologique. Mais maintenant qu'on remet un peu en question cette constante cosmologique et qu'on regarde les choses, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est juste une facilité, une commodité. C'est ce qu'on avait sous la main à ce moment-là. Maintenant, je suis complètement agnostique. Je pense qu'on peut la remettre en question et je pense que Philippe veut la remettre en question.
Alors Philippe Brax, vous avez entendu parler, comme tout le monde, de l'accélération de l'expansion à partir, j'imagine, de l'an 2000, à peu près.
Avant.
Avant 98.
En 98, oui.
Et quel était votre candidat naturel pour l'expliquer ?
Alors en fait, là on parle de choses personnelles, c'est que, comme Christophe, moi aussi je viens de la physique des particules, et je viens de ce qu'on appelle la physique au-delà du modèle standard. Donc c'était un petit peu une obligation professionnelle d'essayer d'imaginer ce qui pourrait avoir lieu au-delà de la constante cosmologique. Mais ça ne veut pas dire que j'ai aucune croyance. En tant que théoricien, je pose les hypothèses et j'étudie les différentes possibilités. Il se trouve que pour aller au-delà du modèle standard, il faut imaginer d'autres choses. Et donc c'est ce que j'ai fait moi personnellement dès 1999, mon premier article sur ce sujet en 1999. Avec des objets qui vont au-delà de la constante cosmologique.
Par exemple ?
Ça peut être ce qu'on appelle des champs scalaires, qui sont des objets qui viendraient être une sorte de quintessence, un type de matière différent de celui qu'on observe, et dont le but serait justement d'entraîner l'univers dans son accélération à partir de quelques milliards d'années dans le passé, en fait. Donc c'est des objets théoriques qui, pendant longtemps, n'avaient pas de nature tangible, jusqu'à ce qu'on découvre le Higgs au CERN. Parce que le Higgs au CERN est un champ scalaire. Le boson de Higgs, ouais, exactement.
Donc cet objet physique bizarre qu'on appelle un champ scalaire, qui, à l'époque où vous l'avez introduite, était... sans preuve expérimentale,
a été
validé par la découverte du boson de Higgs, qui est un exemple de champ scalaire.
Exactement. Donc, l'autre exemple que les théoriciens utilisent depuis longtemps, depuis les années 80, c'est l'inflaton. C'est-à-dire qu'il y a une phase très primordiale dans l'univers, tout au début, qui génère les fluctuations qui deviendront, après 13 milliards d'années, les galaxies. Et les théoriciens imaginent que c'est un autre champ scalaire qu'on appelle l'inflaton qui serait à l'origine de ce qu'on voit comme les galaxies. Donc les champs scalaires, c'est un objet très très utile en théorie. On en connaît au moins un maintenant avec le champ de Higgs. On a des indications fortes expérimentales pour que l'inflaton soit là pour les premiers instants. Et peut-être que ça serait là aussi pour la quintessence.
Mais je vais me faire l'avocat du diable, ça ressemble un peu aux épicycles de Ptolémée. C'est-à-dire vous rajoutez des champs scalaires ad hoc pour résoudre les problèmes que posent les différentes observations.
Je vais défendre mon collègue. En fait, la constante cosmologique est aussi ad hoc.
Non, c'est une sorte de gravité modifiée.
Non, c'est une constante, on ne sait pas pourquoi elle a cette valeur. Il se trouve que c'est la bonne valeur pour que...
Mais vous ne savez pas pourquoi la constante de Planck a la valeur qu'elle a. Et c'est pareil pour la vitesse de la lumière.
Ouais, mais c'est
depuis quand on a besoin d'expliquer la valeur des constantes?
Ah, c'est mieux si on est capable.
Mais lesquelles? Donnez-moi un exemple de constante universelle.
Mais justement, on vient de démontrer que c'est pas une constante.
les gens qui font des calculs numériques sur réseau calculent presque la masse du proton.
C'est pas une constante universelle, c'est une donnée.
Ça dépend. Est-ce que la masse de l'électron est une constante?
Dans le modèle standard, c'est une donnée.
Il faut un couplage de Yukawa pour le construire avec le Higgs.
Tout à fait.
Voilà, les amis, c'est trop technique. Là.
Voilà, c'est trop technique.
On n'a pas besoin d'expliquer d'où vient la valeur d'une constante.
Oui, ou alors mais c'est pour moi...
Christophe Hiège.
Je pense, ça reste à démontrer, puisque là, pour l'instant, on a juste des indications que si on démontre que ce n'est pas une constante, qu'on est capable de l'expliquer, et surtout l'ordre grandeur de la densité d'énergie noire par modèle, ça sera beaucoup plus satisfaisant pour nous, physiciens, je pense. On n'aime pas les choses qui sont introduites de façon un peu ad hoc. Après, c'est vrai, il y a G comme constante, il y a petit c, mais moins il y en a, mieux c'est.
Oui, mais d'aucuns vous diront que les contraintes principielles de la relativité générale, d'emblée, laissaient la place à une constante cosmologique. Et donc, c'est pas quelque chose d'ad hoc, mais c'est quelque chose qui prend naturellement place dans un formalisme tel que celui qu'Einstein a voulu développer.
Ce qui est un peu ad hoc, c'est quand même sa valeur. Ou plus exactement, à partir de sa valeur, on est capable de déterminer la densité d'énergie noire. Il faut comprendre pourquoi on a cette densité d'énergie noire, qui est quand même très mystérieuse, parce que au tout début de l'âge de l'univers, la densité d'énergie noire était extrêmement faible par rapport à toutes les autres densités du rayonnement de la matière. Et miraculeusement, actuellement, la densité d'énergie noire est à peu près du même ordre de grandeur que la densité de matière. C'est quand même une coïncidence qu'il faut être capable d'expliquer.
Est-ce que vous attendez, dans les mois qui viennent ou les années qui viennent, Christophe Hiège, des résultats plus précis qui permettraient de savoir si les résultats que vous avez obtenus sont certains ou s'ils ont été produits par des sortes d'artefacts ou de biais qui vous auraient échappé?
Je pense que c'est la bonne question. Il faut rester prudent. On a des indications. Il faut, d'une part, que l'on apporte d'autres données de notre côté. On sait qu'on continue à observer, on a pratiquement fini d'observer notre programme. Donc il nous reste d'autres données, donc on va être plus précis du point de vue statistique. Comme je l'ai dit précédemment, ce résultat est obtenu en combinant avec d'autres expériences. Donc il faut attendre aussi les résultats des autres expériences, à la fois du point de vue du fond diffus cosmologie. Il y en a plusieurs qui vont arriver cet été, donc ça c'est important. Le point le plus important, c'est qu'une grosse partie de notre mesure est obtenue à partir de supernovae, qui est quand même quelque chose de très délicat. On ne peut pas exclure le fait qu'il y ait une évolution en fonction de l'âge de l'univers de cette chandelle standard qui est les supernovae.
C'est-à-dire qu'on aurait donné aux supernovas, hein, aux supernovae, comme vous dites, un statut qu'elles n'ont pas.
On serait un peu trompé. Faut dire que les supernovae, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quand même elles qui ont démontré l'accélération de l'expansion de l'univers. Mais peut-être maintenant, ils sont un peu à bout de course. C'est-à-dire, on veut trop leur en faire dire. C'est quelque chose qui est peut-être, qui commence à être à la limite des systématiques. Il y a d'autres expériences, donc, qui vont arriver. Par exemple, une expérience qui s'appelle ZTF, qui est poussée par des Français au point de vue de l'analyse. Et à plus long terme, il y a des expériences qui sont LSST et Robin, qui sont des expériences aux États-Unis. Donc, pour les supernovae, il va y avoir sans doute un saut qualitatif dans les années qui viennent. Je pense que le problème des supernovae, c'est plus au niveau des effets systématiques, de la qualité des données, qu'il faut faire en progrès. C'est pas au niveau de la statistique, augmenter le nombre de supernovae.
Il y a quelques mois, on a invité ici à la conversation scientifique un chercheur qui nous a parlé de télescope Euclide, qui a été lancé par l'ESA en juillet 2023, je crois. Il est installé à 1 500 000 km de la Terre, à ce qu'on appelle un point de Lagrange. Et lui va regarder des milliards de galaxies et tenter aussi de faire une analyse de l'évolution de l'énergie noire. Est-ce que c'est complémentaire de votre travail? Est-ce que c'est concurrent? Et est-ce que c'est ce télescope qui va être le juge de paix de toute cette histoire?
En fait, c'est très complémentaire. Parce que ça attaque le problème par un autre côté. Ça regarde l'effet de la gravitation à des échelles un peu plus petites que ce que l'on regarde nous. Donc ça va nous donner une autre façon, une autre mesure, et ça va pouvoir contraindre l'évolution de l'énergie noire en fonction du temps. Il faut comprendre que finalement, notre expérience DESI n'est pas seule. C'est pas DESI qui a trouvé cet effet. C'est en le combinant avec plein d'autres expériences. Et donc, si on apporte d'autres mesures complémentaires avec des méthodes différentes, et donc qui dit des erreurs systématiques différentes comme Euclide, on va améliorer notre connaissance. Donc, c'est très, très important qu'il y ait plein de projets complémentaires. Après, il faut rester humble. On ne peut pas savoir si Euclide sera le juge de paix ou pas, ça va dépendre un peu de l'évolution des autres projets, mais je dois dire que actuellement on vit une période très riche, on est très enthousiaste, on a une chance énorme, nous en cosmologie, parce que ça avance très vite.
Philippe Brax, est-ce que depuis que ces résultats de DESI ont été publiés, il y a des pistes théoriques qui sont en train d'agoniser, au sens où la porte a été fermée par des données qui sont incompatibles avec elles?
C'est trop. Les résultats sont trop récents. Les résultats sont trop récents pour éliminer des modèles, éliminer des différents scénarios. Par contre, il y a des indications que Christophe a commencé à mentionner qui viennent de la façon dont l'énergie noire évolue dans le temps. Et ça permet de donner quelques indications sur le type de modèle qui pourrait reproduire ce qu'on observe. Mais on attend avec impatience ce que DESI va nous donner dans les années à venir, Euclide, LSST, pour avoir une vision un peu plus claire et puis proposer des modèles qui soient plus réalistes.
Il est trop tôt pour s'avancer, mais par exemple, on mesure un paramètre qu'on appelle W, qui est le rapport de la pression sur la densité, puisqu'on considère cette énergie noire comme un fluide, donc on peut lui associer une pression, une densité, et ce paramètre, il est plutôt dans une zone, au cours de l'évolution du temps, qui est en dessous de moins 1. Et nous, expérimentateurs, ça nous gêne, parce que les théories classiques n'aiment pas aller dans cette région fantôme. Mais je suis prêt à parier que Philippe est intéressé par cette région, avoir des modèles dans la région fantôme.
Alors effectivement, oui, dans les pour les théoriciens.
Qu'est-ce que vous appelez une région fantôme?
Ah oui, alors en fait, il faut revenir sur comment est-ce qu'on modélise de façon minimale l'énergie noire. Donc on fait ça comme on fait aussi pour la matière noire, en considérant que c'est un fluide qui remplit l'univers et qui est caractérisé par deux quantités, la pression et la densité. Et on relie de façon simple la pression et la densité par un nombre. Donc c'est la façon la plus minimale de modéliser les choses. Et donc ce rapport pour une constante cosmologique serait exactement égal à moins 1. Donc les données sont proches de moins 1, mais apparemment pas tout à fait égal à moins 1. Et ce rapport a tendance à évoluer. Et les théories les plus simples, comme on a mentionné tout à l'heure, comme la quintessence avec un champ scalaire, donnent que ce rapport doit être toujours plus grand que moins 1. Or, les données auraient tendance à dire qu'un décalage vers le rouge, peut-être de l'ordre de 0,5, donc à quelques milliards d'années dans le passé, ce rapport passerait en dessous de moins 1. Ce qui veut dire que non seulement on n'aurait pas un fluide classique décrit par de la physique tout à fait raisonnable, mais on aurait quelque chose qui vient bien au-delà de ce qu'on peut imaginer avec un champ scalaire.
C'est ça qu'on appelle la matière exotique ?
Ça peut être exotique. En physique théorique, on a beaucoup de choses qui s'appellent exotiques.
Lorsqu'on a vu cette évolution de ce fameux paramètre W en fonction de l'âge de l'univers, on était quand même intrigué par le fait qu'on soit pendant très longtemps, jusqu'à 4 milliards d'années, donc de 14 milliards à 4 milliards d'années, dans la zone W plus petit que moins 1, la zone fantôme. Et on commence à être rassuré parce que les théoriciens trouvent cela intéressant. Donc ça va, on est rassuré.
Alors en fait, pour
Philippe Barrex,
c'est assez facile théoriquement d'obtenir des modèles avec une équation d'état qui est plus petit que moins 1. Et c'est intéressant dans le sens où pour le faire, on a juste besoin d'imaginer que la matière noire, qui est une autre composante de l'univers, qui en fait 25%, et l'énergie noire serait en interaction. Comme les électrons et les protons sont en interaction, elles se parleraient. Et donc dès qu'on introduit cette interaction entre les deux composantes noires de l'univers, on peut passer en dessous de moins 1. Ce qui ouvre des portes énormes pour la modélisation théorique.
Mais là on est à 40 minutes d'émission et vous n'avez toujours pas remis en cause l'idée que la relativité générale soit la bonne théorie de la gravitation. Ah. Mais on pourrait tout à fait imaginer qu'en changeant la façon de comprendre la gravitation, la matière noire et l'énergie noire puissent changer de statut et même qu'on puisse espérer ne plus en avoir besoin pour expliquer les observations cosmologiques.
Je pense qu'en fait, on n'a pas à remettre la relativité générale en cause. C'est pas une révolution ce qu'on a trouvé, c'est une évolution. Mais une évolution très forte.
Comment vous pouvez le savoir à l'avance?
Disons que on recherche la simplicité. Et dans la simplicité, si on reste dans le cadre de la relativité générale, on est capable de décrire nos observations. Et on sait que la relativité générale fonctionne bien et à toutes les échelles. Donc je pense qu'on n'a vraiment pas besoin d'aller la remettre en cause. Et finalement, on avait introduit cette constante cosmologique de façon un peu ad hoc. Ce qu'on remet en cause, c'est juste cette constante cosmologique. Et on essaie de l'expliquer peut-être avec un champ de type quintessence ou par quelque chose de différent. Mais il n'y a rien de fondamental. C'est pas une révolution. Mais laissez-moi continuer. Pourquoi c'est une évolution? Parce que si c'est pas constant, à ce moment-là, il faut falloir le décrire. Et les théoriciens, ils sont super contents parce qu'ils ont plein de modèles. Nous, on a eu une première indication il y a un an. Au bout de 6 mois, on avait 500 publications reliées à notre mesure. 500 publications de théoriciens qui nous proposaient des modèles nouveaux. Donc, c'est très excitant actuellement.
Et comment est-ce qu'on pourrait expérimentalement, ou par des observations, démontrer que c'est telle hypothèse plutôt que telle autre qui est la bonne? Par exemple, entre un champ scalaire dont a parlé Philippe Brax, et de la matière exotique dans la zone que vous appelez fantôme, avec un W inférieur à moins 1, comment est-ce qu'on pourrait, par des tests, privilégier l'une des hypothèses plutôt que l'autre? Ou est-ce que c'est un jeu libre?
Non, c'est pas un jeu libre. C'est-à-dire, si on a plus d'observations, si on combine différentes sondes, le fond diffus cosmologique, le cisaillement gravitationnel de Euclide, les supernovées avec une meilleure reconnaissance des systématiques, on peut améliorer la mesure de ce fameux paramètre W, qui est l'équation d'état, en fonction de l'âge de l'univers, en fonction du décalage vers le rouge. Donc je pense que c'est juste qu'il faut continuer à faire des observations, il faut continuer à pousser des projets et des expériences. Je pense que la réponse est vraiment dans l'expérience. Après, nous avons juste une description de l'évolution en fonction de l'âge de l'univers, qui est une description hyper simple, un peu ad hoc aussi, mais on peut y introduire des descriptions avec des modèles et tester ces modèles. Et c'est le rôle de mon ami Philippe de donner des modèles, et nous, on va observer, on va tester ces modèles.
Mais s'il est avéré que l'énergie noire a varié au cours du temps et pourrait varier dans le futur, est-ce que ça peut rétroagir sur notre façon de comprendre ce qu'on appelle le Big Bang, et notamment l'âge de l'univers?
Alors, c'est très intéressant comme question. En fait, la variation qu'on a est relativement faible. Donc, on ne va pas tellement modifier notre destin. On a réduit un peu l'accélération de l'expansion de l'univers, mais très peu. Donc finalement, le destin qui était prévu avec la constante cosmologique va continuer. Donc on est dans une expansion accélérée, qui sera un peu moins accélérée qu'on le prévoyait, mais on ne va pas avoir un cas de big crunch où on va s'effondrer.
Mais là, Christophe, vous parlez du destin, moi je vous interroge sur l'origine. Ce qui est le contraire.
Bonne remarque.
Est-ce que ça peut changer l'âge estimé de l'univers?
En fait, la constante cosmologique, elle se met où l'énergie noire domine maintenant. Donc, elle va plutôt agir sur le futur plutôt que sur l'origine de l'univers. Mais
oui, c'est une question d'ordre de grandeur. En fait, dans l'univers primordial, les échelles d'énergie étaient extrêmement fortes. Et de ce fait, la constante cosmologique a très très peu d'influence parce qu'elle est très petite. Ce qui est relié aussi au problème qu'on a pour la modéliser théoriquement. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, quand on essaie de la calculer, on a tendance à trouver des nombres qui sont très grands, qui pourraient jouer un rôle au début de l'univers. Mais en fait, c'est en contradiction avec le fait qu'on voit qu'elle ne joue un rôle que dans l'univers très tardif. Et donc, c'est ce problème d'échelle qui apparaît dans tous les calculs et dans toutes les observations.
Mais Christophe Yach, vous disiez tout à l'heure, ce qu'on vise, c'est la simplicité.
Oui.
Qui vous garantit que l'univers soit simple? Autrement dit, est-ce qu'on n'est pas en train de découvrir les racines d'une sorte de complexité qui contredirait vos espoirs métaphysiques?
Je pense que les théories simples sont belles et sont souvent justes. Donc, il faut essayer d'avoir une théorie la plus simple possible.
Ouais, après, il y a des gens qui ont dit tout ce qui est simple est faux et tout ce qui est complexe est inutilisable.
Je ne connaissais pas. C'est très beau.
Paul Valéry.
C'est très joli. Ouais. Oui, dans l'arsenal des théories, on a tout du très simple au très complexe. Donc, des gens imaginent que, par exemple, il y a absolument aucune raison pour que les secteurs noirs de l'univers, c'est-à-dire l'énergie noire, la matière noire, soient faits d'entités aussi simples qu'une constante et peut-être une particule pour la matière noire. Sachant que quand on regarde l'univers observable, il y a beaucoup de particules et beaucoup de phénomènes à toutes échelles. Donc, on pourrait imaginer qu'il y a un univers inconnu pour l'instant qui est noir, et qu'on ne fait que juste toucher de façon régulière avec la matière noire et l'énergie noire, et on n'a pas encore levé le voile.
Mais qu'est-ce qui se passera pour la physique si on n'arrive pas à identifier la nature de cette énergie noire?
Alors,
est-ce qu'on finira par l'abandonner en disant qu'il faut trouver une autre façon de comprendre la gravitation? Alors, ou est-ce qu'on restera devant des questions sans réponse?
Alors, modifier la gravitation, c'est aussi un sujet qui a une longue histoire, et qui est toujours très important, qui revient à la mode régulièrement chez les théoriciens. Et je peux vous dire, par exemple, la raison pour laquelle on s'y intéresse, c'est que si le graviton, qui est la particule qui médie l'interaction gravitationnelle...
Excusez-moi, qui pourrait.
Qui pourrait.
Parce qu'on ne l'a pas détecté.
Tout à fait. Donc s'il existait un graviton, et que ce graviton avait une masse, la portée associée à cette force, comme la portée de l'onde de la force électromagnétique est infinie parce que la masse du photon est nulle, la force gravitationnelle aura une portée finie. Et donc ça voudrait dire qu'à très grande échelle, la gravitation ne jouerait plus, et donc on pourrait avoir des phénomènes d'accélération et de phénomènes comme ceci à très très grande échelle. Pour l'instant, on ne sait pas écrire de façon consistante et adéquate une modification de la théorie de la relativité générale. Donc c'est un problème théorique pour l'instant.
Oui, Christophe Yesh.
Donc là, on a parlé de l'énergie noire. Dans cette expérience, on peut aussi tester la gravitation à des échelles plus petites. Et pour l'instant, on ne remet pas en question la relativité générale. Donc ça, c'est important. C'est des résultats, et c'est une seconde vague de résultats qu'on va présenter au début de l'année prochaine. Pour l'instant, je ne connais pas le résultat, puisqu'on fait des analyses en aveugle. Mais on va pouvoir tester la relativité générale à des échelles qui sont, en gros, 10 fois plus petites que les échelles qu'on utilise pour mesurer la quantité d'énergie noire dans l'univers et l'évolution de l'expansion de l'univers en fonction de l'âge de l'univers. Voilà. Donc, on ne fait pas que regarder l'énergie noire. On teste aussi la gravitation, le moteur de tout, finalement. Le moteur de la cosmologie.
Oui, en fait, on teste les hypothèses à toutes les échelles. Parce que la gravitation joue à la fois aux très, très petites échelles. On teste au laboratoire à moins du millimètre la gravitation. Et la gravitation doit être compatible avec ce que Christophe voit à des très, très grandes échelles. Donc il y a une plage énorme de distance sur laquelle la gravitation fonctionne. Et dès qu'on essaye de faire une théorie qui va au-delà, il faut que la théorie marche aux très petites échelles dans le système solaire, au niveau des galaxies, au niveau des amas et sur les échelles cosmologiques. Et ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué.
Et comment est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce que Philippe Brax, vous intéressez aux résultats de DESY parce qu'ils ont été publiés, ont fait beaucoup de bruit? Ou est-ce que vous entretenez depuis toujours une longue collaboration sur ces questions?
Alors,
Christophe Yesh.
On essaie le plus possible d'avoir des interactions avec nos collègues théoriciens. C'est important, on le fait à travers des séminaires, des Cosmo Club, des Journal Club, où on lit ensemble des papiers, et aussi à travers des présentations en conférence. Donc, et des discussions à bâton rompu le soir après une conférence autour d'une bière. C'est peut-être là où on apprend le plus.
Mais est-ce que vous comprenez toujours?
Des fois, c'est difficile. Je dois dire que Philippe m'a envoyé hier son dernier article. C'est difficile. Mais je suis admiratif.
Est-ce que la réciproque est vraie?
Oui, je regarde les papiers de DESY, j'aimerais tout comprendre.
Mais on se parle. On comprend pas tout, mais on se parle. Et c'est ça qui est important.
Mais est-ce que vos activités sont commensurables? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes sûr de bien vous comprendre et de parler des mêmes choses?
Je pense quand même. Il y a un formalisme qui est commun, il y a une théorie qui est commune. Donc, on se comprend en partie.
En tout cas, je vais vous demander de prendre des risques. On va faire une expérience de pensée. On imagine que dans 10 ans, la conversation scientifique sur France Culture existe toujours, avec la même formule. Et vous devrez venir expliquer ce que vous savez, donc en 2035. À votre avis, et c'est là qu'est le pari, qu'est-ce que vous direz? Je vois Christophe Yesh qui réfléchit sombrement, donc je vais plutôt m'adresser à Philippe Brax.
On aura une meilleure connaissance de la...
Oui,
de la
ça va, d'accord, merci, mais je vous demande de vous engager. Dire qu'on aura fait des progrès sur la connaissance, oui. Mais est-ce que, à votre avis, on aura vécu une révolution? Ou est-ce que les choses seront entrées dans l'ordre, moyennant quelques accommodements?
Non,
avec
d'abord, c'est pas une révolution, c'est plus une évolution. Puisque cette constante cosmologique, c'était un critère de commodité qui nous l'a fait mettre, finalement. Donc, si on remet en question la constante cosmologique, ce sera une simple évolution. Mais si elle n'est plus constante, à ce moment-là, ça voudra dire qu'on aura eu énormément de nouveaux modèles théoriques. Et peut-être que de l'un de ces modèles théoriques aura surgi quelque chose de fondamental pour la compréhension de l'évolution de l'univers. Moi, c'est mon pari. J'espère de tout cœur qu'il n'y a plus de constante cosmologique. J'espère.
Pourquoi? Pourquoi elle vous embête comme ça?
Elle m'embête pas. Non. Parce que, en fait, elle résout pas les problèmes fondamentaux qu'on a. Et si on laisse de côté la constante cosmologique, à ce moment-là, on va peut-être sortir une théorie plus profonde qui résout beaucoup d'autres problèmes. Je pense.
Oui, on pourrait imaginer qu'on ait accès à une nouvelle entité. qui viendrait s'ajouter au modèle standard qu'on connaît à l'heure actuelle. Et cette nouvelle entité serait un des éléments de la face noire de l'univers. Et donc pour l'instant, c'est assez difficile d'imaginer ce que ça pourrait être. Mais comme ça pouvait être difficile en 1964, quand Higgs a imaginé son champ scalaire et sa particule. Mais je pense que c'est quelque chose comme ça qu'on pourrait espérer. C'est-à-dire créer un nouvel objet qui serait fondamental et apparaîtrait sous la forme d'accélération de l'univers.
Bon, on sent quand même, Philippe Brax, que vous avez un petit tropisme personnel pour les champs scalaires.
Pas particulièrement.
Aussi. C'est en tout cas ce qui ressort de ce que vous avez dit. J'avais une question sur le grand projet du CERN qui est actuellement en discussion, qu'on appelle le FCC, un grand collisionneur de 92 km qui serait installé dans un tunnel et qui aurait pour injecteur le LHC, la machine actuelle. Est-ce que, pour la question qui nous intéresse aujourd'hui, celle de l'énergie noire ou de la matière noire, est-ce que vous attendez des données de cette machine qui pourraient éclairer le débat ?
Alors, moi je pense que le problème principal actuellement en cosmologie et en physique, c'est pas l'énergie noire, mais c'est la matière noire.
Parce que cette expliquez-nous la différence.
La matière noire, elle a été détectée indirectement, mais elle a été détectée par son action, par la gravitation, au sein des galaxies, lorsqu'on regarde les courbes de rotation des étoiles. Donc on est certain qu'il y a de la matière noire. On est certain.
Si la relativité générale est bonne.
Voilà. Donc il y a deux pendants. Soit on modifie la relativité générale, mais comme on a expliqué, c'est très délicat de modifier la relativité générale à toutes les échelles. Donc l'idée traditionnel, c'est de dire que c'est une particule qui va expliquer cette matière noire. À ce moment-là, un grand collisionneur à très haute énergie, proton-proton, ça on parle dans très longtemps, peut-être...
Quelques décennies.
Plus, oui. Oui.
Non, pas des siècles quand même.
Non, pas des siècles, mais quelques décennies, comme vous dites. Donc, pourrait permettre de trouver ces particules qui peuvent expliquer la matière noire. On peut l'expliquer aussi par d'autres domaines. Hein. Maintenant, on s'excite beaucoup sur les actions, qui sont des particules...
Les actions avec un X.
Exactement. Mais, ces actions peuvent expliquer
alors
la matière noire.
Alors, c'est quoi les actions ? C'est des particules ?
C'est des particules qui ont été prédites dans le cadre du modèle standard pour expliquer la violation de CP par l'interaction forte. Donc pour résoudre un problème...
Et c'est quoi la violation de CP ?
Donc la violation de CP, c'est on regarde l'univers à travers un miroir et le miroir qu'on voit de l'autre côté n'est pas exactement pareil. Voilà. Et donc, on a été obligé d'introduire ces actions pour résoudre un point un peu obscur de l'interaction forte. Et maintenant, ça revient à l'ordre du jour, peut-être expliquer la matière noire. Mais je pense que Philippe a des idées là-dessus.
Ah oui. Alors, puisque j'ai un tropisme sur en faveur des champs scalaires, l'action serait un champ pseudo-scalaire.
Donc, c'est quoi la différence ?
Quelque chose qui, justement, aurait un problème avec la parité, comme l'a dit Christophe. Et donc, quand... l'action jouerait plusieurs rôles. Il pourrait être une particule, mais il se comporte comme une particule dans certains domaines. Par exemple, on pourrait imaginer créer des actions dans l'univers et voir un flux d'actions qui viendrait rencontrer la Terre. Mais au niveau cosmologique, il se comporte comme un champ scalaire, presque comme le champ de quintessence, et il vient simplement peser et donner les effets cosmologiques et les effets galactiques dont Christophe... à parler tout à l'heure.
Mais vous êtes conscient que ce que vous dites ressemble à de la poésie. C'est de la poésie sophistiquée, comme disait Montaigne, mais c'est quand même de la poésie.
C'est notre rôle, en tant que scientifique, de faire rêver les gens, je pense, comme les poètes.
Oui, sauf que, plus que sans doute, vous êtes sommé de découvrir la vérité.
Pourquoi ? Parce qu'on engage des moyens.
Bon, en tout cas, c'est une prétention de la physique de décrire le réel.
On essaie de s'en rapprocher, de valider des théories en ce qui me concerne. Je ne suis pas un théoricien, donc je ne crée pas des théories, de les valider ou de les infirmer. C'est notre rôle. Mais je pense aussi que notre rôle, un peu comme les artistes, comme les poètes, c'est de faire rêver les gens. C'est notre vocation aussi.
Mais si on fait le bilan de ce que vous avez dit, la matière telle qu'on la connaît, ce qu'on appelle la matière baryonique, faite de protons, de neutrons, d'électrons, c'est combien de pourcents du contenu de l'univers? C'est 4%, 5%?
Oui, c'est ça.
De la matière noire, 25%. 25. Et le reste, 70% pour l'énergie noire.
On ne connaît pas grand-chose. En plus, la matière baryonique, on n'en voit qu'une faible fraction, on n'en voit que 1%.
Quand j'étais étudiant, on prétendait connaître 100%. Puis, découverte de la matière noire, ça baisse beaucoup, l'énergie noire, ça baisse encore plus. Et on a l'impression que les connaissances qu'on obtient augmentent la conscience qu'on a de notre ignorance. Donc, il ne faudrait pas que ça continue. Il ne faudrait pas que la proportion de ce qu'on connaît baisse encore.
Oui, mais c'est la seule façon qu'on a de décrire ce qu'on observe. Donc, comme je l'ai dit, ce qui est important pour moi, le plus important actuellement, c'est de découvrir la matière noire en tant que scientifique. Moi, ce qui me concerne, c'est l'énergie noire. Mais si on regarde fondamentalement, si on arrive à expliquer l'origine de la matière noire, je pense qu'on aura fait un grand pas dans la connaissance de la science.
Et
la physique.
70%, c'est quand même un grand pas, oui. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez l'anagramme de l'énergie noire?
Non.
C'est la reine ignorée.
Ah, ça c'est.
Reine ignorée. La reine, oui, parce qu'elle est dominatrice, en l'occurrence. Et bien qu'on ait annoncé que vous alliez éclaircir le débat, à la fin, on a l'impression qu'on ignore toujours de quoi elle est faite.
Non, mais on va continuer à observer pour préciser ce qu'on observe. Et d'ailleurs, cette équation des temps, c'est un peu comme les alchimistes, il y a plusieurs siècles, qui essayaient de comprendre la nature d'un nouveau constituant. C'est la même chose, cette équation d'état, ce fameux paramètre W. On essaie de comprendre la nature de cette énergie noire. Et je pense que c'est notre rôle.
J'ai une dernière question à l'un à l'autre. En 2024, le prix Nobel de physique a été attribué à deux chercheurs qui ne sont pas vraiment des physiciens, mais qui ont été des pionniers dans le domaine de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'IA, comme on l'appelle, pourrait vous aider dans l'analyse des données ou dans la fabrication d'hypothèses? Christophe Siech.
Depuis ma thèse, c'est-à-dire il y a longtemps maintenant, j'utilise des méthodes de machine learning. Donc, c'est clair que en physique des particules, depuis très longtemps, on utilise des méthodes de machine learning, donc d'IA. Après, ça sera un outil qui va nous aider et qui nous aide actuellement. Mais c'est pas ça qui va nous donner de nouvelles idées, de nouvelles théories. Mais ça va nous aider dans notre travail.
Philippe Brax, j'imagine que vous êtes d'accord.
En fait, pour construire des théories, l'intelligence artificielle a pas encore d'impact. Pour analyser ces théories quand les calculs sont trop compliqués et que on a des difficultés pratiques, ça peut avoir un intérêt.
Merci à vous deux d'avoir... Alors, moi, je dirais pas que vous avez complètement éclairci le problème, mais montré plutôt qu'il a une dimension complexe qui est considérable. En tout cas, je vous remercie l'un et l'autre, Philippe Brax et Christophe Hiesch, d'être venu à la conversation scientifique pour nous parler de l'énergie noire. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Nicolas Bonnet et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.